France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Alors, je suis Gérard Voulet, je suis violoniste, j'étais professeur au Conservatoire de Paris, je suis né en août 1938 et je suis le fils de Gaston Poulet qui était un chef d'orchestre bien connu.
Bonsoir, Gérard Poulet.
Bonsoir.
On vous a quitté hier alors que vous étiez encore formé vous-même par Eric Schering. Et vous voilà à votre tour enseignant. Et il y a eu un laps de temps entre ces deux moments-là où vous êtes...
Devenu enseignant assez tôt finalement.
Parce au conservatoire de Saint-Maur, hein,
oui,
d'abord.
Quand je suis rentré d'Algérie et que je me suis installé à Paris, mais les concerts que j'avais ne me suffisaient pas pour gagner ma vie, donc il fallait que je trouve un moyen d'assurer l'existence de ma nouvelle épouse et de moi-même. Alors, je me suis trouvé devant un choix où j'abandonnais l'idée de jouer en public et de faire un métier, après tout, qui était bon, un bon métier, c'est de devenir violoniste dans un orchestre, et pourquoi pas même... violon solo, je pouvais prétendre à un tel poste. Et j'ai eu une occasion de rencontrer le directeur du conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Alors, j'ai fait un an, deux ans, et puis ma classe s'est étoffée. J'ai passé l'examen national, je suis devenu professeur de la ville... Et donc j'ai été titularisé à ce poste et ma vie s'est solidifiée de cette façon-là et je ne me suis plus posé de questions, est-ce que j'allais rentrer dans un orchestre ou pas. J'ai poursuivi dans cette voie-là et ça me plaisait. Et comme je voyais que certains de mes élèves faisaient de jolis progrès et que j'envoyais d'ailleurs... À un certain moment au conservatoire à Paris, je le voyais bien réussir, ça m'a donné le goût de ça, et ça m'a encouragé à continuer. Et en 1979, j'ai été fier et heureux de devenir un des professeurs du conservatoire de Paris.
Quand vous devenez enseignant au conservatoire de Paris, vous enseignez à des élèves qui sont forcément plus âgés, qui sont plus avancés du moins.
C'est ça, oui, qui
étaient dans leur
plus avancés, niveau de oui, violon. Bien sûr. Alors là, mon enseignement a évolué, oui, parce que je m'adressais à des personnes qui étaient sur le point de devenir professionnelles.
Est-ce que le fait d'avoir vous-même remis à plat votre technique de violon avec
oui.
Schering.
Ça m'a beaucoup
d'avoir
aidé aussi, n'est-ce pas,
etc., ça vous a
oui, parce que ça a contribué à m'apporter des certitudes. Parce que ce qui fonctionnait sur moi fonctionnait sur les autres. Donc, ça me renforçait dans l'idée que Schering avait raison. Je suis devenu beaucoup plus fort parce que j'ai pris de l'assurance. Et cette assurance m'a conduit aussi à l'étranger où j'ai fait des masterclass Je suis allé en Allemagne, bon, je suis allé aussi au Japon une certaine période, moins souvent que maintenant. Je suis allé en Chine et en Amérique du Sud.
Un bon élève, Gérard Poulet.
Ce que j'aime chez un élève, d'abord, c'est un état de souplesse. Quand un élève est raide, c'est très très difficile d'enseigner quelque chose qui lui change véritablement son jeu, qui change son jeu. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que cette personne accepte de reculer comme je l'ai fait au moment où j'ai connu Schering, mais il faut un courage énorme pour défaire ce que l'on a appris mal, pour bien le refaire sur la voie du succès, quoi. Alors, quand on est en face d'une personne qui est souple de nature, l'enseignement est beaucoup plus facile, parce que les exemples que vous pouvez lui donner, il peut derrière, immédiatement, imiter ce que vous avez fait. Un élève qui est ou maladroit, ou qui a été mal enseigné, ne peut pas jouer comme vous. Il lui faut d'abord désapprendre pour réapprendre. Alors, j'ai appris à juger les personnes qui étaient, disons, qui m'intéressaient suffisamment pour leur dire la vérité. Alors, quand je disais la vérité à quelqu'un, c'est que j'avais de l'estime pour lui. C'est pas facile à dire, parce que toute vérité n'est pas facile à dire. Mais quand on a conscience de ce qu'on est en train d'enseigner, quand on a envie véritablement d'aller au fond des choses et de sauver une personne, je le faisais. Et j'ai rencontré quelquefois des personnes qui acceptaient de faire ce que je leur disais. D'autres n'acceptaient pas.
Parmi les choses que vous avez enseignées, c'est la précision de la justesse.
La précision de la justesse.
La précision du rythme aussi.
Intraitable sur ce sujet. Ce qui n'est pas complètement juste est faux. Ce qui n'est pas complètement en mesure est hors rythme. Alors, une fois que la justesse est là et que le rythme est là, on peut commencer à travailler.
À travailler le legato ?
Tout à fait. Il y a si peu de gens qui savent ce que c'est que le legato. Il y a si peu de violonistes qui l'emploient. même quelquefois des violonistes connus. Et pourtant, c'est l'art du phrasé. Si on ne sait pas comment réaliser le legato, on ne peut pas aborder à 100% l'interprétation des grands compositeurs. Et surtout Mozart.
Comment il s'obtient ce legato ?
Avec des mots, c'est très difficile. Si j'avais un violon entre les mains, je vous dirais comment. Mais voilà, il s'agit simplement de tirer ou de pousser le son, comme ça, et ne pas bouger la main droite qui se défile du talon jusqu'à la pointe ou du milieu jusqu'à la pointe, et que vous articuliez pendant ce temps-là toutes les notes que vous voulez, mais sans que le poignet ou le bras, on va dire le bras bouge, puisqu'il bouge horizontalement, mais sans faire le petit mouvement de poignet qui accompagne l'articulation de la main gauche. Il faut absolument une totale liaison du son. Et cette liaison du son, paradoxalement, est très difficile à faire. Les petits enfants y arrivent mieux que ceux qui ont appris le violon et qui ont un niveau supérieur. Parce que probablement, pendant la période où on fait des progrès, on cède du non-legato pour apprendre certaines œuvres trop difficiles, mais on a tout de suite un petit résultat flatteur. Et ce petit résultat flatteur fait que beaucoup de professeurs se disent « ça y est, il est sur le chemin du progrès ». Et c'est là que commence la mauvaise habitude. Alors le legato m'a été enseigné par Henry Schering, qui tout de suite a remarqué que je ne l'avais pas du tout, ce legato, et qu'il fallait que je l'apprenne. Ensuite, de quoi, quand j'ai compris l'importance de cet élément essentiel, j'ai observé Yascha Heifetz. Et Yascha Heifetz a un legato absolument phénoménal.
France Musique, les grands entretiens de Gérard Poulet.
Pour revenir à la technique, Gérard Poulet, je crois que vous aimez aussi remettre à plat les connaissances du violon et la technique du violon au point de retirer une mentonnière,
retirer... non, pas retirer une mentonnière, non, mais...
Retirer le coussin.
Retirer le coussin, oui, c'est vrai. Alors, je joue avec un coussin qui est très doux et qui ne serre pas le violon. Parce que à serrer le violon avec un coussin... on l'empêche de bien sonner. Alors bon, c'est une espèce, ça surélève un tout petit peu l'épaule, parce que comme je n'ai pas une épaule très large, alors, et puis un grand cou, alors ce petit coussin m'aide à pincer le violon d'une plus agréable façon. Alors en vous disant ça, parce que pendant plusieurs années, j'ai joué avec ce petit coussin très, très agréable et très souple, eh bien ces temps-ci, depuis quelques mois, je l'ai même retiré. Pendant longtemps, j'ai joué sans coussin, mais je me suis retrouvé avec une douleur dans le dos qui indiquait que je montais l'épaule gauche et pour pouvoir mieux pincer le violon. Et à force de monter cette épaule, je me suis collé un mal dans le dos. Bon, si je joue assis, par exemple, j'aime bien avoir un coussin. Si je joue debout, j'en ai moins besoin. Ce qu'il faut, c'est toujours être droit dans l'axe du corps, ne pas se tourner, avoir la tête haute. Et si on a la tête un peu penchée, il faut qu'elle soit penchée à gauche, un petit peu à gauche. Et il faut toujours qu'on soit le visage décontracté. Il faut que lorsqu'on prend une photo, il ne faut pas qu'il y ait de grimace. Lorsqu'un violoniste grimace, c'est qu'il est dans une situation de tension. S'il est dans une tension, forcément, c'est qu'il a un défaut de position. Et par exemple, je vous donne le cas Schering, qui lui était plutôt, qui avait un buste vraiment assez fort. Il n'avait absolument pas besoin de coussin. Il n'imaginait même pas qu'on puisse en mettre un. Et c'est vrai que Heifetz, Milstein n'en mettait pas. Alors ça m'avait aussi convaincu que tout le monde devait retirer le coussin. Mais finalement, c'est faux. Si vous n'observez pas ça et si vous ne suivez pas la nature ne vous suit pas, elle, à ce moment-là. Il ne faut pas la contraindre.
Accompagné de nombreux élèves, certains ont des carrières brillantes aujourd'hui. Je pense à Renaud Capuçon, je pense à Jean-Marc Philips, Varja Bédian, Trio Van der Heur, je pense aux sœurs Menem Tanou et de nombreux autres.
Oui, c'est vrai, Sarah et Déborah.
Qu'est-ce qui fait le plus pour qu'un élève soit prêt à devenir professionnel? Vous le voyez venir? Vous le sentez?
Oui. Voilà, pour tous les cas que vous avez cités, d'une manière un peu différente, parce que tout le monde est différent, mais enfin, je me suis aperçu très tôt que ces quatre personnes-là deviendraient d'excellents professionnels.
Est-ce que vous pensez avoir formé des solistes, des chambristes ou des musiciens d'orchestre ou des enseignants?
Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
C'est pas comme ça?
Non, surtout pas. Pas de catégorie de ce genre. C'est la vie qui se charge. On enseigne comme s'ils allaient devenir véritablement des solistes. Bon, être soliste, c'est un grand luxe. C'est rarissime. Moi, j'ai eu tellement d'élèves dans ma vie. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont devenus des solistes. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'ordre de 10%. On dit à tous quand même relativement les mêmes choses. Bon, on leur apprend. Moi, d'abord, il y a des différences, comme je vous disais. Mais enfin, l'école, c'est quand même bien, c'est bien la même pour tout le monde. Le son, c'est bien le même pour tout le monde. Alors, ce qui sort de leur violon n'est pas pareil, parce que il se trouve que l'homme, la femme, il y en a pas un qui se ressemble.
Bien sûr.
On est tous différents.
Mais tout de même, on ne joue pas de la même manière quand on est soliste, quand on doit projeter le son dans une salle, quand on est chambriste.
Ça, j'apprends pas ça. Alors là, non, je ne me mêle pas de ça. Puis bon, là, je sais respirer la personne maintenant. Alors là, immédiatement, beaucoup mieux qu'avant encore. Je sais la personne qui a le talent pour éventuellement percer. Et j'ai déjà rencontré des gens qui avaient ça et qui n'ont rien fait. Mais ils auront une jolie carrière, mais une jolie carrière, disons, plus modeste.
Il y a beaucoup de mérite à jouer dans un trio ou un quatuor à cordes.
Il faut être heureux dans la vie. Bon, il y en a qui sont heureux comme ça, à être violon solo dans un orchestre et qui n'ont pas envie d'aller plus loin.
C'est pas une autre façon de faire du violon.
On n'est pas forcément déçu parce qu'on n'a pas joué le concerto de Beethoven sur une grande scène parisienne.
Bien sûr. Est-ce que c'est pas une autre façon de faire de la musique aussi?
Oui. Bon, on a cité le cas de ces quatre personnes qui sont maintenant des collègues. Bon, ben, Philips, il fait une somptueuse carrière de musicien de chambre avec le trio Van der Heer, mais il joue aussi des concertos moins souvent que Renaud Capuçon. Qui a organisé sa vie d'une façon formidable. C'est confondant.
Voilà. Vous avez aussi formé.
Alors les sœurs Nemtanou, elles font pas moins bien que lui. Elles font différemment, mais elles sont deux violons solos marquants, des deux orchestres parisiens. Voilà. Je ne dirais pas qu'elles sont en dessous, elles sont pareilles, elles ont aussi bien réussi.
Quand on sent qu'une personne va être davantage soliste ou davantage chambriste ou davantage en orchestre, parce que c'est peut-être quelque chose que vous ressentez assez tôt dans une formation, est-ce que vous enseignez différemment? Est-ce que vous mettez plus tout l'accent sur telle et telle, telle chose?
Oui, certainement. C'est pas la peine de donner certaines subtilités d'interprétation à des personnes qui n'ont pas assez de connaissances ni assez de subtilité dans leur jeu, c'est pas la peine. Il faut pas parler de choses qui, en dehors des capacités de compréhension de certaines personnes. Je juge assez vite de l'intelligence et de la perception des personnes. Alors ça n'a rien à voir avec les capacités physiques, hein, ça. La main gauche, l'archet, il y en a certains violonistes. Ils sont violonistes, ils sont nés violonistes. Mais ils ont un petit cerveau.
Gérard Poulet, ce que plusieurs élèves m'ont dit ou ont témoigné, que ce qui les impressionnait le plus dans ces années de formation avec vous, notamment au Conservatoire de Paris, c'est votre capacité à vous, technique, une capacité violonistique époustouflante qui fait que vous étiez capable de leur jouer le concerto de Beethoven sur le pouce.
Je vous disais ça, Tchering, tout à l'heure.
Hein. Oui, et le concerto de Tchaïkovski, voilà, parce qu'ils peinaient au deuxième système et vous étiez capable de faire toute la suite. Vous avez continué à travailler votre violon inlassablement, c'est une discipline de fer que vous vous êtes imposée.
J'ai tellement observé Tchering, j'ai tellement voulu lui ressembler, parce que je suis un acharné d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire. Donc, si je voulais dépeindre un petit peu quelques qualités que je pourrais avoir, c'est que je ne lâche jamais. Je suis le genre de personne qui, lorsqu'il a subi, on va dire, un échec, je me dis, bon, on va laisser passer un peu de temps et je reprendrai l'affaire. Je ne me décide jamais à dire stop, ça, je ne peux pas. Quand je dis ça, c'est que je sais que je ne suis pas capable de le faire. Mais quand je sens que je suis encore capable de faire et que je ne le fais pas, je continue. Alors, ça s'appelle la persévérance. Alors, quand je vous disais, si j'ai une petite qualité, c'est celle-là. Je suis un persévérant. Alors, j'essaye, dans la mesure du possible, d'insuffler à quelques élèves pour qui j'ai de l'admiration et de l'espoir, cette forme donnée à sa vie, l'envie irrépressible d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire.
Merci beaucoup, Gérard Poulet.
Merci beaucoup aussi.
Merci. Cette transcription pour violon et piano de L'Oiseau de Feu de Igor Stravinsky est ici interprétée par Gérard Poulet avec Noël Lee au piano. Le violoniste parlait à l'instant de son acharnement à travailler sa technique. La reconnaissance de son art par la critique viendra plus tard, avec des enregistrements de référence, notamment la sonate pour violon seul de Bartok et les sonates et partitas de Bach. Ce sera l'objet du quatrième volet de ces grands entretiens. Merci à toute l'équipe de ces grands entretiens, Olivier Guérin à la réalisation, Sandrine Malon à l'enregistrement, Marie Lepeintre au mixage, Flora Sternadel et Christophe Dillis pour la préparation. Les références discographiques, la réécouter, le podcast sont disponibles sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.